écoutez RCF Miss Côte d'Azur, tout de suite, votre émission Culture et Spiritualité. Père Tocoli, bonjour.
Bonjour Alexia.
Nous poursuivons notre série sur l'origine du christianisme proposée par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. Aujourd'hui, notre 8e épisode, le roman des origines. Alors nous allons commencer cet entretien avec une première question. Est-ce que la chute du temple de Jérusalem en 70 est l'événement majeur de l'histoire chrétienne ?
Eh bien, je réponds tout d'abord par une comparaison, Alexia. Nous avions cru que le 20e siècle se terminait en 89 avec la chute du mur de Berlin. Et puis, le 11 septembre d'il y a quelques années, il y a eu les deux avions qui sont écrasés contre le World Trade Center. Et on s'est aperçu que cet événement mettait fin à quelque chose et que commençait quelque chose d'autre, c'est-à-dire une espèce de culture du terrorisme, de la mort et de l'impuissance à le contrôler. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'événement de 70, qui est la destruction du Temple de Jérusalem, est certainement une date pivot. Il y a un avant 70 et un après 70 dans l'histoire de la Méditerranée orientale, de même qu'il y a un avant la naissance du Christ et un après la naissance du Christ pour l'histoire du monde. Ce qui se passait avant, ce qui se passait après, va prendre une dimension différente. Mais vous devez vous rendre compte, Alexia, et vous, chers téléspectateurs, c'est que ce sont les gens qui vivent après qui appellent les choses par ce nom. Personne n'avait le sentiment qu'il se passait quelque chose de tellement important que ça allait prendre un sens pour tout le reste de l'histoire. Il y a l'idée du moment, c'est-à-dire la destination qui a été donnée à cette expédition punitive des deux grandes légions romaines, l'une qui arrivait depuis les îles de l'Écosse et puis d'autre de Saragosse en Espagne, quand elles ont été convoquées pour se rendre sur place à Caesarea Maritima, entendez Tel Aviv ou Jaffa, eh bien elles ont reçu l'ordre de tout mettre à sang. C'était Oradour sur Glane. Il fallait détruire toute présence juive sur le territoire. Bien. Dire ce fait-là, c'est dire que tout d'un coup, tout ce qui est juif, entendez, tout ce qui est juif traditionnel et tout ce qui est juif chrétien, n'est plus sur le territoire. Et c'est là qu'il commence quelque chose. Au-delà de l'épisode historique lui-même de l'Empire romain qui met fin à la présence juive ici, qui va raser Jérusalem, qui sera reconstruit en 135 par Marc Aurèle, etc., etc., nous avons affaire, donc il ne reste plus rien. Ce que nous connaissons de Jérusalem, c'est à part le temple, tout le reste a été changé. Tout le reste a été détruit et reconstruit en 135, puis de nouveau en 1537 par les Ottomans. Donc c'est important de voir que toutes les preuves historiques, ma chère, tous les lieux, tout ça, etc., n'est que reconstitution sous une, deux, trois, quatre couches des fondations, des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, il est important dans l'esprit de ce qui se passe pour la nouvelle voie, qui s'appelle la voie chrétienne, la foi chrétienne, elle va se développer ailleurs que là où elle est née. Et ça c'est très extrêmement important. Elle va se développer où ? Elle va se développer dans l'Empire romain. À partir d'où ? À partir de Rome, l'institution chrétienne. Mais elle a été précédée précisément par à la fois quelqu'un qui a parcouru l'ensemble du bassin méditerranéen qui est Paul, et d'autre part par des textes qui circulaient comme ça, qui sont reconstitués, qui vont produire ce que nous allons appeler les évangiles. Au point qu'on peut se demander si l'Église catholique romaine est née des évangiles et du Nouveau Testament, ou si c'est pas elle qui a fabriqué après être née. Oui, c'est important le processus. Nous sommes dans le processus des gestations. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne se passera plus rien au point de vue chrétien sur le territoire d'Israël. Ça va se jouer dans l'Empire romain. Et l'Empire romain va donner une structure de territoire, d'organisation et de puissance, deux siècles plus tard, en reconnaissant la religion dite chrétienne comme étant la religion d'Empire. Donc à ce niveau-là, on peut dire que la chute du temple, vous voyez, ça c'est l'élément symbolique, les deux avions sur les deux tours, voilà une image, la chute du temple, voilà une image, À partir de là, va se construire quelque chose dans l'imaginaire. Ce serait intéressant de se rendre compte, lorsque nous serons morts, vous et moi, Alexia, vous le plus tard possible, moi je suis vieux, de se demander ce que les historiens dans 100 ans représenteront comme image de la fin du XXe siècle. Et ce sera la chute du mur à la porte de Brandebourg à Berlin, ou est-ce que ce sera les deux avions rentrant en collision avec les deux tours du World Trade Center à New York? À quel moment? C'est important de se rendre compte. La Révolution française, ça a été moins la nuit du 4 août que l'exécution en janvier 93 de Louis XVI sur la guillotine. Ça, c'est une image. L'image, elle marque les esprits. Et c'est à partir de l'image qu'on va reconstituer de part et d'autre. C'est-à-dire que le pas a été franchi. Quand le pas est franchi. Quand a eu la révolte à Rome contre César? C'est le coup de poignard de Brutus dans le corps de son père adoptif. Tu quoque, filius. Toi aussi, mon fils. Oui. Là, il y a eu bien qu'une révolte contre le truc. Oui.
Alors justement, j'aimerais quand même qu'on reste un peu dans les dates. Est-ce que l'on peut dater la rédaction des Actes des Apôtres? Et puis, est-ce qu'on peut identifier l'auteur de ces actes?
Alors, la dater, au même titre que justement les travaux ont été faits sur l'épître aux Thessaloniciens, c'est-à-dire que tous ces gens qui se penchent sur la datation, c'est important de savoir. Mais nous ne serons jamais à quelques années près, si vous voulez. D'autant plus qu'on s'est trompé dans la dénomination des dates. Jésus-Christ serait né 7 ans avant Jésus-Christ, si vous voulez, pour savoir bien que c'est, tout ça était très imprécis. Mais il semble qu'au niveau de la datation, puisque vous commencez par là, votre question, la datation serait dans les années 80-85. Dans les années 80-85, n'oubliez pas que ça fait plus de 40 ans que Jésus de Nazareth est mort et ressuscité, qu'il n'y a plus personne en État d'Israël, et que les gens qui ont recueilli des morceaux, des textes, des anthologies, des pense-bêtes, qui vont devenir l'évangile de Luc, qu'on va attribuer au docteur Luc, ces gens-là sont des plutôt de formation hellénistique, ce sont peut-être des juifs, mais qui ont été en contact avec l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais on va l'attribuer à quelqu'un qui devait animer certainement ces communautés ou dont on se réclamait du charisme. Et c'est pour ça qu'on l'attribue à Luc. Je ne vois pas le docteur Luc assis dans son bureau du deuxième étage en train de taper sur son ordinateur l'évangile qu'on va lui attribuer. Ainsi que le deuxième tome. Au point qu'on va mettre deux introductions. L'introduction à l'évangile, mon cher Théophile, machin, etc., je me suis renseigné. Et j'ai écrit quelque chose pour toi afin que tu te rendes compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Et donc on va prendre la même forme pour les actes, et de dire, dans un premier tome, je t'ai exposé mon cher Théophile, machin truc, etc., etc. Donc il y a une véritable, retenez ce mot Alexia, et vous aussi chers auditeurs, une véritable composition. On appelle ça une élaboration. Et les élaborations et compositions se jouent souvent avec ce qu'on appelle des prosopopées, c'est-à-dire qu'on va mettre dans la bouche des héros, des phrases, des textes, des allocutions, des harangues qu'ils auraient tout à fait pu prononcer, mais dont on n'a aucune preuve qu'ils les ont prononcées. C'est l'esprit. C'est dans cet esprit-là que c'est fait. Alors oui, première question, nous pouvons dater l'ensemble lucanien, qui comprend 2 tomes, l'Évangile et les Actes, de cette époque 80-85, d'une part. Et d'autre part, l'auteur, eh bien, comme je viens de le dire, il n'y a jamais un seul auteur dans ces textes. Ce sont toujours des traditions que l'un ou l'autre, à un moment donné, a reprises et a mises ensemble pour en faire un produit fini. Hein? Alors que Luc ait été, je répète, l'animateur de cet esprit-là et d'autres. Je prends un deuxième exemple pour vous faire comprendre. Quand le Caravage, qui arrive de la ville de Caravaggio, qui s'appelle Michelangelo Merisi, se met à peindre de sa façon à lui ce qui va devenir le clair-obscur avec l'apparition des ombres, où le noir jouera un très grand rôle, etc., etc. À quel moment devient-il le Caravage? Alors tout le monde fait l'étude, il va mourir très tôt, comme ça c'est beaucoup plus rapide de savoir à quel moment. Mais ensuite il va tellement influencer les gens autour de lui qu'il va avoir ce qu'on appelle le mouvement caravagesque. Eh bien, le mouvement caravagesque, qui commence où? Avec qui? Eh bien, on ne sait pas très bien. Ce que l'on constate sur une période donnée, c'est qu'à un moment donné, les peintres peignent à la Caravage. D'accord ? Eh bien, de la même façon ici, nous avons affaire à des gens qui ont été inspirés par la façon que Luc a eue de rapporter ce qu'il a vécu, et on va lui attribuer donc ce texte.
J'aimerais justement qu'on revienne un peu sur cet auteur des Actes des Apôtres. Est-ce qu'il aurait été un compagnon de voyage de Paul ?
Eh bien, d'après les textes, où ça lui échappe peut-être, c'est ça qui est très intéressant, je vous le disais déjà dans une précédente émission, ma chère Alexia, Luc, enfin l'auteur des Actes, passe du « je » quand il fait parler Paul, ou « il » quand il parle de Paul, à « nous ». Il dit « nous ». Alors, où ça lui échappe ? Ou c'est un procédé littéraire, ou alors, justement, il en faisait partie. Dans La Fontaine, nous avons ça parfois. Il dira d'une jeune femme qui se présente à lui, fille d'un de ses voisins, « Comme nous sommes belles ce matin !» Le « nous » signifie « vous ». Mais il s'associe, c'est-à-dire qu'il trouve qu'elle est vraiment très belle ce matin. « Comme nous sommes belles ce matin !» À notre endroit, il dira « Comme on est belles ce matin !» Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est le jeu stylistique. Et Luc est un maître de la stylistique.
Alors, j'aimerais poursuivre justement sur ces Actes des Apôtres, sur ces épîtres de Paul. Est-ce que ces récits concordent sur les mêmes événements ?
Les événements eux-mêmes des voyages de Paul, c'est surtout Luc qui en parle, en tant que voyage. Et Paul ne parle pas de ses voyages organisé. Il dit qu'il va se rendre ici, qu'il va se rendre là-bas, dans une épître à une autre. Donc il y a plus complémentarité d'informations entre les deux. Deuxièmement, c'est bien le Paul des épîtres que l'on trouve dans le Paul de Luc. Paul a connu, a vécu avec, a fait des voyages, tout ça c'est au conditionnel, avec Paul. Paul ne lui est pas inconnu, ou disons que Paul n'est pas inconnu à la tradition lucanienne. Mais il n'y a pas de contradiction. Il y a des événements qui sont rapportés différemment, de même que des événements sont rapportés différemment dans les évangiles. Dans les quatre évangiles, il y a des variantes, dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Luc et Matthieu. Quand on les met face à face pour mêmes épisodes, on s'aperçoit que l'un a rapporté ceci, l'autre a rapporté cela. Par exemple, il y a deux multiplications des pains chez Marc. Et tout d'un coup, chez Jean, pardon, il n'y aura même pas la scène. Il y aura le lavement des pieds, par contre. Donc il y a bien ce qu'on appelle une intention théologique. Le livre est toujours précédé par une intention.
Alors pour conclure, simplement, j'aimerais connaître le projet de l'auteur des Actes des Apôtres.
Eh bien voilà, je crois qu'il y a un double, un triple ou un quadruple projet. Le premier, je suppose, mais c'est peut-être parce que je me projette. Je pense que Luc avait une grande admiration pour Paul. Et que les Actes des Apôtres sont presque à la gloire plus de Paul que de Jacques et Pierre de la première partie. C'est premièrement. La seconde chose, c'est que Luc voit bien à réflexion, Luc, je répète, ou les auteurs, que l'Église est en train de se répandre et que la mission semble plaire beaucoup plus que le fait de la sédentarité de l'Église à Jérusalem. Enfin, je pense que l'intention, c'est de montrer de toute façon de Luc cette expansion, j'allais dire exponentielle, du christianisme, et c'est pour cela que l'épître, plutôt que les Actes des Apôtres, se termine pas avec la mort de Paul, mais avec sa garde à vue à Rome, dont il espère, puisque Paul nourrit ce projet, qu'il ira jusqu'à Tarsis, c'est-à-dire jusqu'en Espagne, entendez, jusqu'aux confins de l'Empire romain.
Père Toccoli, merci. Nous concluons ainsi notre 8e épisode, le roman des origines, dans la série L'origine du christianisme, une série de Gérard Mordilla et Jérôme Prieur. C'était votre émission Culture et Spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. Bonne continuation à l'écoute de nos programmes.